Écoutez, après ce qu'on vient de voir là, bien entendu, on va descendre bien bas. Parce qu'entre cette kedusha de toutes ces rencontres avec le rabbi et revenir un peu sur terre, c'est très dur. Mais on va essayer quand même de le faire. Parce que, en réalité, ce que je vais faire, moi, c'est pas de la géopolitique. Je ne suis pas géopoliticien. Je suis quelqu'un qui lit les textes et qui ne lit pas les journaux. C'est-à-dire que c'est avec beaucoup de émouna que je crois que lorsqu'on se pose des questions quant à ce que je dois faire demain, c'est pas en regardant la radio ou en écoutant la télévision que je sais. Je le fais en allant voir qu'est-ce que la Torah dit de cela. Et surtout n'essaye pas d'imaginer qu'il puisse y avoir un quelconque événement qui puisse se passer dans le monde sans que quelque part la Torah n'en ait pas parlé d'une certaine manière. Le problème, c'est de savoir aller retrouver dans la Torah ce qui se passe. Alors, la question que j'avais décidée avec Rabbi Tzrak qui est là, c'était d'aller voir un peu aujourd'hui ce qu'on nous demande, ce que tout le monde réclame, ce que le monde entier réclame, c'est que il y ait des accords de paix avec les Palestiniens. Des accords de paix, nous sommes d'accord. Le problème, c'est que nous voulons savoir comment ces accords de paix doivent se faire. Et d'abord, la première question, est-ce que on a le droit de faire des accords de paix avec les goyim sur une terre qui nous appartient? Pas une terre que c'était et ta aret asher natati les aran, pas asher natati que je t'ai donné. Alors est-ce que je peux remettre en doute le fait que Akadosh Baruch Hu m'ait donné une terre et que maintenant je viens discuter avec des gens pour savoir si je peux m'installer dans cette terre ou ne pas m'installer? Donc je vais voir qu'est-ce que je vais aller voir ce que dit la Torah, je vais aller voir ce que dit la Gemara, je vais aller voir la Mishnah, je vais aller voir tout à l'heure on va voir un passage du Zohar et on va voir qu'est-ce que nous disent nos Hachamim. Or, dans la Sidra de Toldot qu'on a lu il n'y a pas longtemps, nous avons vu que Abraham Avinu, qui était déjà un grand roi, Nessi Eloki Mata Bekirbenu, tu n'es pas n'importe qui. Il était considéré comme Nessi Elohim. Tu es le prince de Dieu. Donc, Abraham n'était pas n'importe qui à l'époque où il discutait avec Abimelech. Abimelech n'était pas n'importe qui. Abimelech, c'était l'ancêtre de ce que vous avez aujourd'hui à Gaza. C'est pas nouveau. Tout cela, c'est une histoire qui est éternelle. Ça veut dire que c'est là-bas que je vais aller pour chercher qu'est-ce qui se passe. Or, je vais voir que, à un certain moment, Abimelech, le roi de Gaza, de l'époque, de Gaza, est venu chez Abraham et lui a dit, voilà, je voudrais qu'on fasse la paix. Abraham a immédiatement accepté. Vous le savez, il a immédiatement accepté parce qu'Abraham, c'est Abraham. Abraham, c'est le Chesed. Avec un het majuscule. C'est l'amour le plus grand. Il est prêt à tout, Abraham. Je vais me rendre compte que quelque temps après la mort d'Abraham, le même Abimelech, ou bien son fils Abimelech, va aussi demander à Yitzhak, le fils d'Abraham, de signer aussi des accords de paix. Et nous allons voir que tous les deux ont signé. Donc, première conclusion, faut-il signer des accords de paix avec les goyim? Oui. Sur quoi tu te bases? Sur Abraham et Yitzhak. C'est pas n'importe qui Abraham et Yitzhak. Donc, nous voyons qu'en réalité... Mais seulement, le problème, c'est que vous savez qu'il est très dangereux de lire la Torah Shebirtav sans la Torah Shebealpé. Ce qui fait la spécificité de la lecture juive de la Torah, c'est ce qu'il y a dans le Midrash, ce qu'il y a dans la Gemara, ce qu'il y a dans le Mishnah, ce qu'il y a dans le Zohar. D'ailleurs, vous le savez bien, nous ne vivons pas notre vie juive selon ce qui est écrit dans la Torah chez Birtav. Nous vivons notre vie selon ce qui est écrit dans la Gemara et dans la Mishnah. La Torah me dit œil pour œil, dent pour dent, mais les rabbins me disent c'est pas ça qu'il faut faire. Donc, lorsque je lis quelque chose dans la Torah Shmirtav, il ne faut pas que je prenne cela pour argent comptant du moment que Abraham a signé un accord de paix avec Abimelech et que Yitzhak aussi a signé un accord de paix avec Abimelech. Donc, c'est kasher. Il faut y aller. Le danger à ne pas commettre, c'est de ne pas aller voir qu'est-ce qu'en pense nos hachamim. C'est-à-dire, tout ce qui a suivi le moment où la Torah a été écrite. Or, vous savez que lorsqu'Akadosh Baruch Hu a donné la Torah à Moshe Rabbeinu, il lui a donné une Torah écrite, mais à côté de la Torah écrite, il lui a donné toute une Torah orale. Si je devais m'en tenir que ce qui a écrit sur la Torah, je ne saurais même pas comment faire une soukha. Je ne saurais même pas comment manger kasher. Je ne saurais pas comment faire Shabbat. Ce qu'a donné à Kadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu, c'est les Rashi Prakim. Et chaque fois que Moshe Rabbeinu écrivait une mitzvah, HaKadosh Baruch Hu lui expliquait cette mitzvah. Voici comment cette mitzvah doit se faire. Maintenant, lorsque la Torah nous raconte que Abraham et Yitzhak ont signé des accords de paix avec Abimelech, ça c'est ce qui est écrit dans la Torah. Mais je vais aller voir maintenant qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Gemara à ce sujet-là. Et alors à ce moment-là, on va tomber des nues. Et on va se rendre compte que c'était tout à fait le contraire de ce que nous pensions. Que ce n'était pas du tout la vie de HaKadosh Baruch Hu. Qu'HaKadosh Baruch Hu, qui vient Chol, n'était pas d'accord avec Abraham. N'était pas d'accord avec Yitzhak. Et que ils ont mal fait de faire ce qu'ils ont fait. Mais comment, qu'est-ce que nous sommes nous pour dire des choses comme ça d'Abraham et de Yitzhak? Que ce qu'on peut dire, c'est Abraham et Yitzhak ont des midot, c'est-à-dire des dimensions d'être homme différentes des nôtres. Une mida, c'est une dimension, n'est-ce pas? Ce que nous pouvons essayer d'imaginer comme étant l'amour de l'autre, ce n'est rien du tout avec la vérité de ce que ça représente pour Abraham Avinu. Ce que nous pouvons nous représenter comme étant la rigueur et le din, ce n'est rien par rapport à ce que pense en réalité Yitzhak. Donc, nous avons besoin d'aller voir ce que dit le Midrash. Commençons, si vous voulez bien, par prendre note. Je sais que vous avez bonne mémoire, que vous avez étudié la Torah, que vous connaissez ce passage. Mais enfin, on va quand même voir s'il n'y a pas quelque chose de particulier dans ce texte. Le premier texte dont je vais parler, c'est-à-dire celui de Abraham Avinu. Vahi Ba'etai, vous y êtes. C'est la référence numéro 1, Vahi Ba'etai. Alors à ce moment-là, il arrive dans le même temps qu'Abimelech. Abimelech. On a dit Abimelech, c'est Melech Gerar. Melech Gerar, vous pouvez aujourd'hui remplacer Melech Gerar par, comment il s'appelle, Agnier, je ne sais pas quoi. Et c'est la même chose, vous avez exactement la même chose. Nous sommes véritablement dans la lecture de la Torah, et Ramban, Rabbi Moshe Ben Nachman, vient nous répéter sans cesse, Ma'ase Avot, Siman Labanim. Ma'ase Avot, Siman Labanim. Au début, dans son introduction à son commentaire, il nous dit, il faut savoir lire que Ma'ase Avot, c'est-à-dire ce que la Torah nous raconte sur les pères, n'est qu'une allusion à ce qu'il va arriver aux enfants. Donc, fort de ce commentaire de Ramban, lorsque j'ai besoin de quelque chose, je vais voir comment ça s'est passé avec les pères. Donc, rappelons-nous qu'Abraham est à ce moment-là quelqu'un de très grand, de très connu, de très puissant. Il vient de terminer une guerre qu'il a gagnée. Il a été reçu à Shalem, qui était la Jérusalem de l'époque. On lui a offert du pain et du vin. On lui a dit, tu es Nessi Elohim Atabe, Betochenu, tu es le prince. Donc ce n'est pas avec n'importe qui. Et on comprend maintenant que Abraham est tellement puissant que les petits roitelets comme Abimelech commencent à avoir peur. Et alors, ils viennent et ils réclament de Abraham qu'il fasse un accord avec lui. Voici ce que dit Abimelech Abraham. Il lui dit, Hachem est avec toi dans tout ce que tu entreprends. Et maintenant, jure-moi par ce Dieu que tu ne seras infidèle ni à moi, ni à mes enfants, ni à ma postérité. Ça, c'est mal traduit, ni à ma postérité, ni à mon petit-fils. Ulnini ulnechdi, c'est mon fils et mon petit-fils. Donc, qu'est-ce que demande Abimelech? Il demande qu'on signe un contrat de paix dans lequel il n'y aura pas de guerre entre les deux, ni entre les fils, ni entre les petits-fils. Alors, bien entendu, première question que se posent tous les commentateurs. Lorsqu'on fait un accord de paix, on ne fait pas un accord de paix pour quelque temps. Il n'y a que le Hamas pour dire, nous on fait un accord de paix pour 3 mois. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais que, vous comprenez? Alors là, on dit, Ulnini Ulnirdi, uniquement pour moi. Alors ça, c'est déjà quelque chose qu'on ne comprend pas. Il va falloir qu'on aille voir dans, il va falloir qu'on aille comprendre dans le Midrash pourquoi il a demandé Ulnini Ulnirdi. Il aurait dû dire, ad aeternam, pour toute la vie. Et que moi j'ai bien agi à ton égard, ainsi tu agiras envers moi et envers le pays où tu es venu séjourner. C'est pas de jamais qu'est-ce que Abraham a pu avoir du côté de Abimelech. Au contraire, il a eu des problèmes. Vous devez vous en souvenir, n'est-ce pas? On lui a pris sa femme, Sarah, et puis hein, et Abimelech vient et dit, et moi j'ai bien agi à ton égard. C'est absolument faux. Quel chesed il lui a fait? Jamais. Hein? Il n'a pas tué. Vous avez tout à fait raison. Il n'a pas tué. Il aurait pu le tuer, il n'a pas tué. Mais seulement, Abraham, on ne pouvait pas le tuer. À ce moment-là, il était... Hein, vous connaissez, vous vous souvenez. D'ailleurs, l'Agmara raconte une fable à ce sujet-là. Et cette fable, elle se retrouve dans les fables que nous avons étudiées quand on était à l'école, les fables de La Fontaine. Vous connaissez cette fable dans laquelle il y a un lion qui a avalé un os, et l'os lui est resté en travers, alors on ne savait pas comment faire, alors on a été chercher un héron, le héron au long bec, le héron a mis un, et il lui a retiré l'os. Et après qu'il lui ait retiré l'os, il lui a dit, bon, maintenant, tu me payes. Alors le lion lui dit, mais sois, déjà, remercie Dieu que tu sois sorti indemne. Et tu veux encore... Voilà, c'est exactement ça. Hein, les nations, les goyims, croient être toujours ceux qui nous ont donné quelque chose. Hein? Et tout cela vient du fait que nous vivons dans la galoute. Et cela est perçu chez eux comme un bienfait absolument extraordinaire. Que les Juifs qui ont vécu en Allemagne étaient les plus grands musiciens, les plus grands médecins, les plus grands philosophes, que ceux qui ont vécu en Espagne étaient les plus grands médecins, ça c'est rien. C'est quand même des minorités. Et c'est à ce titre-là, comme cela, que un Juif doit toujours m'être redevable. C'est lui qui doit me remercier. Alors que, bien entendu, vous savez que nous avons heureusement pris notre part de toutes les civilisations et nous avons donné beaucoup plus que les autres nous ont donné. Bon. Alors, donc, je te demande de faire un acte, un accord avec moi. Et Abraham répondit, ok, d'accord. Il discute pas, il ne sait pas, mais pourquoi, qu'est-ce qu'il y a, rien. Anochi Ishabea. Tout de suite, Abraham répond, je suis d'accord. Mais, à ce moment-là, Abraham va faire des reproches à Abimelech. des reproches. Vous savez que chaque fois que Abraham creusait des puits, les Philistins venaient et les... Vous avez compris la symbolique. Qu'est-ce que c'est que creuser un puits? Creuser un puits, c'est faire sortir l'eau. C'est l'eau, c'est la vie. Creuser un puits dans un désert, comme le désert du Negev, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Mais creuser un puits, c'est aussi la vérité, le puits de la vérité. C'est au bord d'un puits que tous nos parents ont trouvé leur femme. C'est là-bas que Rivka, que Rachel, que Tzipora, tout cela. Il y a quelque chose de très fort. Lorsque on nous dit que les Philistins viennent reboucher, ça veut dire que ce n'est pas leur culture. Ils ne peuvent pas vivre de cela. Ce n'est pas leur spiritualité. Alors Abraham dit, puisque maintenant on va signer un accord de paix, avant qu'on signe un accord de paix, j'ai encore quelque chose à te dire. J'ai pas été content que lorsque j'ai fait des puits, on me les ait... Quelle est la réponse de Abimelech? Ah bon, c'est vrai, je savais pas. Je savais pas. Vous imaginez, c'est-à-dire que à étudier seulement le texte tel qu'il est, on voit que les choses ne sont pas bien. Abraham accepte. Et en plus, Abraham, qu'est-ce qu'il va faire? Il avait amené avec lui 7 brebis. Sheva kifsot à Elé, qu'il avait mis de côté. Et avant de signer, il lui a dit, comme c'est un grand jour aujourd'hui, voilà, je t'offre 7 brebis. Regardez Abraham. Non seulement il n'avait aucun intérêt à cela, mais en plus, il accepte immédiatement, et de plus, il donne un cadeau. Et comment va s'appeler cet accord? Ça, il faut le retenir. Ça va s'appeler l'accord de Beersheba. Hein? Pourquoi? Parce que c'est toujours à Beersheba qu'il va y avoir un deuxième accord avec Yitzhak. Je sais pas si... Bon, il y a beaucoup de jeunes ici qui n'étaient peut-être pas nés encore lorsque la première fois Sadat est arrivé à Jérusalem. Il y en a qui se souviennent de cet moment. Sadat est arrivé à Jérusalem pour la première fois pour parler à un chef d'État arabe qui va parler aux Juifs, au Parlement, à la Knesset. Il a simplement demandé quelque chose. C'est qu'avant d'aller à Jérusalem, on va passer par Sheva, par Beersheba. Ceux qui étaient au courant à cette époque-là savaient que voulait dire ce clin d'œil. Parce que Beersheba veut dire le puits du serment. Se souvenir qu'il y a eu déjà un exemple dans le passé où ce serment entre nous avait réussi. Or, Sadat était venu justement pour chercher la même chose. Mais auparavant, il a tenu à commencer par faire une station à Beersheba. Alors, on se demande maintenant quelle est la réaction. C'est comme si chaque fois que nous avons un problème de ce genre, on est amené à se poser la question, qu'est-ce que pense Hachem de cela? C'est ça qui va nous incliner à aller à la recherche dans ce qu'on peut nous dire les textes, quelle est la position de Hachem? Est-ce qu'il était d'accord? Parce que vous savez, vous auriez pu vous dire, ah oui, mais si ça s'est fait, c'est qu'Hachem était d'accord. C'est pas vrai. Parce que n'oubliez pas que Hachem a décidé de créer l'homme et de le créer libre et de lui donner le libre arbitre. C'est déjà pour vous et pour moi, Hachem nous permet de faire ce qu'on veut parce qu'on est libre, plus forte raison pour Abraham, Yitzhak. Donc, il est important de savoir comment Kivyachol réagit Dieu au fait que Abraham ait immédiatement signé. Alors écoutez, je vous ai apporté le texte et j'ai traduit directement de Bereshit Rabba. C'est la référence numéro 2. Bereshit Rabba, au chapitre Nun Dalet, paragraphe Dalet, dans lequel il est écrit ceci. Vous y êtes? Abraham mit à part 7 brebis du troupeau. C'est ça? C'est comme ça que commence le Bereshit Rabba. Et il dit, le Saint béni soit-il, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, dit Abraham. Donc le Midrash met dans la bouche de Akadosh Baruch Hu, qui vient chol, ce qu'il dit à Abraham Avinu. C'est comme ça que le Midrash fonctionne, n'est-ce pas? Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, tu as donné 7 agneaux sans mon consentement. Sans mon consentement, par ta vie, Hayecha, c'est donc de cette génération que je retarderai la joie de tes enfants. Est-ce que vous avez compris ça? Quelles sont ces 7 générations? De quoi il s'agit? Parce que, vous savez, le Midrash est à prendre avec des pincettes. Chaque mot est en place, c'est pas n'importe quoi. Dieu dit, parce que tu t'es permis de donner un cadeau, quand tu n'avais pas besoin de faire un cadeau à ces gens-là, toi tu leur as fait un cadeau, tu leur as offert 7 brebis, c'est pour ça que ça s'appelle Ber Sheva. Sheva, c'est pas uniquement Shvoa. Sheva, ça veut dire 7 aussi en hébreu, n'est-ce pas? Eh bien, à cause de ça, je vais faire retarder la joie de tes enfants de 7 générations. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment? Ça a disproportionné, laissez ça à Sarkozy. Mais regardez, écoutez. D'abord comprenons qu'est-ce que ça veut dire cela. Qu'est-ce que ça veut dire que je vais faire que, à cause de cela, eh bien, ce que je t'avais promis, je vais le reculer de cette génération. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu avait promis à Abraham? Les Zaracha étaient Neta Aretz Azot. Comme il peut y avoir des problèmes, qui c'est Zaracha de Abraham? Parce que Ishmael aussi se dit, vous comprenez, il se dit, je suis où c'est Zaracha? Akadosh Baruch Hu, il a mis les points sur les i, Ki Be Yitzhak Ikare Lecha Zara. Donc on sait, c'est Yitzhak. Alors, pardon? Non, au niveau d'Abraham, nous sommes au niveau d'Abraham. Dieu parle à Abraham. Et lui dit, les Zaracha étaient nés à Sazot, à ta génération. Et pour ne pas qu'il y ait d'erreur, le ton Zera, c'est Yitzhak. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si Abraham n'avait pas signé cet accord avec Abimelech, déjà, nous avions Eretz Israël donné à Yitzhak. Maintenant que Abraham s'est permis, c'est le Midrash, c'est permis de faire ces accords-là, Dieu dit, bien maintenant, à cause des sept brebis que tu as données, on va attendre 7 générations. Et vous savez compter les 7 générations. Quand est-ce que nous sommes rentrés finalement en Eretz Israël? Avec? Avec Oshua. Comptez le temps entre Abraham et Oshua, et vous allez trouver les 7 générations. Alors que, si il n'y avait pas eu cet accord, d'après ce que dit le Midrash, Akadosh Baruch Hu dit, du fait que tu l'as donné, eh bien, tu as retardé, je vais retarder la joie de vous donner Eretz Israël. Pardon? C'est très dur. Oui? Oui. Et c'est pas fini, attendez. Attendez la suite, vous allez voir. Bon, maintenant, vous comprenez pourquoi. Lorsque je parle de ces choses-là, je n'en parle jamais sans distribuer des feuilles. Parce que ça pourrait paraître... Vous avez la référence, c'est le Midrash. C'est le Midrash. Le Midrash, vous savez ce que c'est que le Midrash? C'est le support de la Torah écrite. On comprend rien à la Torah écrite sans le Midrash. Le Midrash, c'est ce qui n'est pas dit dans l'écrit, et qui vient expliquer ce qui est écrit. Le Midrash, bah les rabbins. Les rabbins de la Gemara. Par Rabbi Shimon Bar Yochai, par Rabbi Akiba, par Rabbi Yochanan, par ces... Hein? C'est ce qui se trouve à l'intérieur de la Gemara. C'est ce qui est, il a été mis il a été rassemblé sur le plan scripturaire au 8e siècle, mais il date depuis toujours. Encore une fois, rappelez-vous ça. Essayez d'imaginer la chose. Dieu dit à Moshe, prends un parchemin et écris. Je vais te dire, voilà. Veshamru ben Israël, écris. Veshamru ben Israël et ta Shabbat, la Hatot et ta Shabbat. Et Moshe Rabbeinu écrit mot à mot. Quand il a terminé, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, pose ton stylo. Je vais t'expliquer. Ah, il faut que comme on nous a dit tout à l'heure, que les petites filles allument des bougies. Ça y est dans la Torah, ça. Il faut, on n'a pas le droit de sortir avec un mouchoir. C'est écrit dans la Torah, ça. Etc. Et ben, toutes ces milliers de détails concernant quelque chose. Il y a un petit texte comme ça écrit dans la Torah, il y a des milliers de détails. Où est-ce qu'on va les trouver? On les trouve dans le Midrash. Vous comprenez? Et le Midrash a autant de valeur que la Torah écrite. Ça, il y a pas de, on ne fait pas de distinction, nous, entre Torah écrite et Torah. On dit la Torah. Et ça, c'est le Midrash. Alors maintenant, la colère de HaKadosh Baruch Hu n'est pas encore complètement calmée. Ah, tu as donné cet agneau sans mon consentement par ta vie, Hayecha. C'est donc sept justes parmi tes enfants que ces enfants feront mourir. Sept justes que les enfants de Abimelech vont tuer de nos enfants. Quels sont ces sept? Shimshon, Hophni, Pinchas, Shaul Ameler, qui a été tué par les Philistins. Et tout cela ont été bénis. Et les trois enfants de Shaul Ameler qui ont été tués par les Philistins. Maintenant, vous pouvez dire, c'est vraiment disproportionné. Mais voilà, ça va jusque-là. Lorsque on a libéré quelques territoires, on ne s'est pas rendu compte qu'est-ce qu'on a fait. Hein? Regardez le nombre de morts qu'il y a eu après. C'est ça. Le Midrash est en train de me raconter la réalité de ce qui a été et donc de ce qui sera. Ma'asé Avot, Siman Labanim, il faut l'écrire en grand, très grand. Là. Et c'est pas fini. Tu as donné cet agneau sans mon consentement. C'est toujours sans mon consentement, dit HaKadosh Baruch Hu. Eh bien, ce seront donc les sept sanctuaires de tes enfants que ces enfants détruiront. Et lorsque HaKadosh Baruch Hu nous a donné la Torah la semaine prochaine, la paracha de Yitro après Béchallah, tout de suite après, HaKadosh Baruch Hu a demandé qu'on y fasse un Mishkan, et puis à Aaron, et ce Aaron, à l'intérieur du Aaron, il y avait l'étape de la loi. Eh bien, pendant, jusqu'à l'époque de Shlomo HaMeler, ce sanctuaire a été un sanctuaire qui se promenait. Il était nomade. Eh bien, il a été souvent pris et détruit par les Philistins. C'est toujours par les Philistins. C'est pas. Nous sommes en train de parler que des Philistins en ce moment-là, dans ce Midrash-là. Ne parlons pas des autres. La tente de réunion, les sanctuaires de Gilgal, de Nob, de Givon, de Shiloh et les deux temples. Beit Rishon, Beit Sheni. Et c'est pas fini. C'est ce qu'indiquent les mots et puis c'est expliqué. Non. Ensuite, je voudrais que vous regardiez ce qu'il y a écrit là, dans 3. Regardez. C'est un verset de Yoshua, Josué. Je veux que c'est Yoshua qui a mené l'opération dans 30 terres promises. Et là-bas, il est écrit « Ve'et hayevusi yosheve Yerushalayim » Ve'et hayevusi yosheve Yerushalayim lo yachlu bene Yehuda le horisham. Il y avait un peuple qui s'appelait les Yébusiens, les Jébuséens, qui habitaient Yerushalayim. Et ceux-là les enfants de Yehuda n'ont pas pu les vaincre. Lo yachlu bene Yehuda le horisham. Et vayeshev hayevusi, et les Jébusiens sont restés, et bene Yehuda berushalayim adayomazé. Ils sont restés jusqu'à aujourd'hui. C'est un verset qui se trouve dans Yoshua. Qu'est-ce qu'il veut dire ce verset-là? Qu'est-ce qu'il veut dire? Ça veut dire que Yoshua a pu conquérir tout le pays, sauf un endroit, c'est-à-dire Jérusalem, puisqu'il était habité par les Yéboussis. Et pourquoi? Est-ce que les Yéboussis étaient tellement puissants, tellement forts, que Yoshua n'a pas pu les vaincre? C'est pas ce que nous dit Rashi. Rashi explique. Il nous dit, quant aux Jébuséens qui habitaient Jérusalem, les enfants de Juda ne purent les déposséder, de sorte qu'ils sont demeurés à Jérusalem avec les enfants de Juda jusqu'à ce jour. Que dit Rashi? Je lis Rashi. Shaninu besifri. C'est un midrash. Rabbi Ushua ben Korha Omer. Yecholim hayu. Ça veut dire que si il avait voulu Josué les battre, bien sûr, il pouvait les battre. Et là, écoutez bien, chez Lo Hayu Rashaim, Mehamat Hashivua, chez Nishba Abraham la Abimelech. Mais ils ne l'ont pas fait parce qu'ils étaient tenus par la promesse et l'accord. Lorsqu'il y a un accord entre Israël et les autres, Israël tient sa promesse. Mais les autres, c'est exactement.
L'accord d'Abraham, vous voulez dire?
Hein? Bien sûr, c'est ce que dit.
C'est trois générations, l'accord d'Abraham.
Ah ouais, mais trois générations d'Abraham. Mais c'est pas bon. Et encore trois générations après. Il y avait encore des descendants d'Abimélec vivants à Jébus, c'est-à-dire à Yerushalayim. Et à cause de ça, comme nous avons juré, et qui c'est même pas nous qui avons juré, c'est notre arrière-grand-père Abraham qui a juré. Mais nous sommes respectueux des accords que nos ancêtres ont pris pour nous. On ne l'a pas fait.
Donc les Jébusiens et les Philistins, c'est la même chose.
Ah, c'est absolument la même chose. Et Bush.
Il n'avait rien à faire à Jérusalem.
Regardez, hein.
Il n'avait rien à faire à Jérusalem.
Qui n'avait rien à faire?
Les Jébusiens.
Ben, ils y étaient.
Ah ouais, mais normalement, c'est pas leur lieu de vie.
Ah ouais, mais ça c'est un autre problème.
Il y a des Juifs à New York.
Mais ça, c'est autre chose. Mais écoutez, il serait dangereux de dire des choses comme ça parce qu'on pourrait vous le retorquer. Et vous?
Hein, on a conquis.
Hein? Ah, on a conquis, non.
Non, mais ils n'ont pas conquis, eux, ils sont restés là en se disant, on est protégés par un pacte.
Ils sont protégés par un pacte. Bon, ce qui m'intéresse encore une fois, nous ne sommes pas en train de faire de la géopolitique. Nous sommes en train de voir comment ça s'est passé à l'époque de la Torah. Point, c'est tout. Je fais des constats, simplement des constatations. Dans un autre livre qui vient après celui de Yoshua, il y a le livre de Shoftim, les juges. Là-bas, il est écrit Ve'et hayebusi yosheb Yerushalayim. Encore, c'est le même. Lohorish ou bene Binyamin, parce que lorsque Yoshua a réparti le pays, il a donné à la tribu de Binyamin, il lui a donné Yebus. Jérusalem était dans le Helek de Binyamin. Lohorishu bene Binyamin. Et les enfants de Binyamin n'ont pas pu les déposséder. Vayeshev hayebusi et bene Binyamin. Birushalayim adayomase. Rashi va nous expliquer. Ce n'est pas qu'ils ne pouvaient pas. Ils pouvaient. Mais, ou me bene Abimelech, hayu, velohorishu mi bene Hashivua. Parce que, ils étaient encore pris par cette alliance. Ensuite, on arrive ce que je vous demande, c'est de tourner la page et de regarder le dernier, le numéro 7. Alors ça, c'est quelque chose de beaucoup plus proche de nous. c'est un commentateur. C'est Rashbam. Je ne sais pas si vous connaissez Rashbam. Rashbam, c'est le petit-fils de Rashi. Rashbam, c'est celui qui va poursuivre le commentaire du Talmud lorsque Rashi va mourir sans pouvoir terminer. Après, c'est lui, Rashbam. Rashbam est un commentateur. Et sur la fameuse première phrase que vous connaissez de ce qu'on appelle, à tort, le sacrifice d'Yitzhak, il est écrit « Vaihi ahar ha-devarim ha-ele » Veha Elohim, Nissa et Abraham, Bayomer Lav, Abraham, Bayomer Ineni. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? Qu'on dit tous les matins. Le verset commence par Vayi Ahara Devarima Ele. Et comment traduit-on Vayi Ahara Devarima Ele? Après les événements qui se sont déroulés. Moi, je veux savoir qu'est-ce qui s'est déroulé. Donc, le Midrash va s'intéresser à savoir qu'est-ce que c'est Vayi Ahara Devarima Ele. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait que Akadosh Baruch Hu a demandé à Abraham d'aller lui sacrifier Yitzhak d'Afka à ce moment-là? Après Vayahara Devarima Ele. Hein? Vous comprenez? Les rabbins du Midrash et du Talmud sont très curieux. Ils ne laissent rien passer, ils veulent tout savoir. Si brusquement, Akadosh Baruch Hu appelle Abraham et lui dit maintenant tu vas prendre ton fils Yitzhak et tu vas monter vers Aleusham le Latin. C'est qu'il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est passé, ben c'est écrit. Vayahara devarima ele. Je veux savoir qu'est-ce que c'est que Vayahara devarima ele. Rashbam. Je vais directement là, Ahara devarim. C'est souligné au milieu là-bas. Écoutez bien, et écoutez bien chaque mot. Et ça c'est Rashbam, n'est-ce pas? Ahara devarima ele shekara tavraham berit la abimelech. Vous avez entendu? Après que Abraham ait eu signé une alliance avec Abimelech, lo ul nino ul nirdo, pour lui, pour son petit-fils, et pour son arrière-petit-fils chez Abraham, venatan lo sheva kifsot hatson, et après que Abraham ait eu donné aussi sept agneaux, vehara apo shel hakadosh baruch hu alzot, vehara apo, traduisez-moi, vous traduisez, c'est pas moi, hara apo, comment? Quelle colère! Haron Af, c'est quelque chose de terrible. Hara Apo Shel HaKadosh Baruch Hu. Hein? Kadosh Baruch Hu était vraiment très en colère.
Abraham Avinu n'a rien senti?
Eh non. 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 Eh ben oui. Eh ben non. Il n'a rien senti.
Eh oui, parce que c'était l'amour.
Mais oui, vous savez. Il avait cette dimension d'amour absolument extraordinaire. Vous imaginez un homme qui a fait sa Mila à l'âge de 90 ans, qui est au troisième jour de la Mila, et qui se met dehors au soleil pour attendre qu'il y ait des gens pour les inviter. Vous connaissez des types d'hommes comme ça? Eh bien, ce genre de type d'homme ne peut pas ne pas faire la paix quand on lui demande de faire la paix. Il le fait. Pour lui, c'est normal. C'est normal. Il n'en sait rien. Il n'est pas prophète. Ah oui, mais il n'y a pas... Oui, bien sûr, mais c'est le Midrash qui nous le dit. Le Midrash ne nous dit pas qu'il a appelé Abraham et qu'il lui a dit « Attention, tu n'aurais pas dû ». C'est ça le problème. Vous comprenez? Finalement, toute notre manière de comprendre les choses, c'est justement de voir ce que le texte écrit dit et que le texte oral qui est maintenant écrit dit, et puis de tirer des enseignements de là.
À chaque fois vous employez Akadosh Baruch Hu, vous ne dites pas Elohim, donc...
Pardon?
À chaque fois vous dites Akadosh Baruch Hu, vous ne dites pas Elohim. Donc quand il y a une décision un peu de fermeté, etc., toujours Elohim. Et là, il semble que c'est quand même Akadosh Baruch Hu, donc... Je pars dans le fond des choses. Parce que le problème avec Abraham, c'est que c'est contradictoire à tout ce qu'on a appelé. Parce qu'Abraham, on a toujours dit il est Merkava, c'est-à-dire c'est un char, oui. Il n'a pas le droit, oui. Si lui, il est patriarche, il est à un niveau tel qu'il n'y a pas de différence entre leur volonté et la volonté de Dieu.
Oui, c'est ça.
Et on a le même problème qu'avec ce qui s'est passé dans Bereshit au début avec Adam Arishon. On dit oui, mais s'il n'avait pas mangé le fruit, ma chair est arrivée tout de suite. Oui. En vérité, quand on étudie un petit peu, on voit que ce plan-là, c'était le plan que Kadosh Baruch Hu voulait.
Oui.
Sur Adam Arishon, c'est ce qu'il voulait.
Oui.
Sur Avraham Avinu, qui est Merkava, donc il n'a pas de libre arbitre, justement. Oui. S'il a agi comme ça, c'est certainement que c'est la chair qui veut
que
Hachem, c'est lui qui veut.
Alors, s'il vous plaît, expliquez-moi ça.
Ah, je l'explique pas.
Ah ben voilà, c'est là le problème. C'est ça. C'est pour ça que j'apporte les textes. Non, ce que vous dites est très vrai et très juste. Mais c'était un tout autre problème. Si vous m'invitez une deuxième fois, on en parlera. Simplement pour vous dire, la chose suivante. Toute la Gemara est faite de discussions dans lesquelles l'un dit ça c'est noir et l'autre dit ça c'est blanc. Oui ou non? Il y a des discussions. Tout c'est des marloquettes. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y en a, que là-dedans il y en a qui ont dit juste et il y en a qui ont dit faux. Mais si vous dites comme ça, donc il faut jeter la moitié du Talmud. Or, on nous dit « Elou, ve Elou, dibre Elokim Hayim ». Celui qui, pour la même chose, dit noir, et l'autre dit blanc, pour la même chose, au niveau de HaKadosh Baruch Hu, tout s'unifie. Ça veut dire que ce que nous sommes en train de faire là maintenant, nous sommes en train d'expliquer que, d'une part, HaKadosh Baruch Hu n'était pas content. La preuve, il le dit. Il est en colère. Et c'est pas ça. C'est que nous avons vérifié que sa colère a porté. La preuve, c'est que nous ne sommes rentrés que après 7 générations en Eretz Israël. La preuve, c'est que 7 fois le tabernacle a été détruit. La preuve, c'est que 7 justes ont été.
Mais c'est aberrant. Parce qu'on dit qu'il a donné cet agneau, mais il l'a donné seulement avec son cœur. Pourquoi Hachem a voulu nous punir? C'est aberrant.
Mais Hachem n'a pas voulu nous punir.
Ah oui, mais il a dit, bon, tu seras dans cette
oui, cette eh bien oui, c'est ce qui est arrivé, effectivement.
C'est avec le cœur qu'il a fait Abraham. Il a donné cet agneau.
Lorsque nous avons libéré un certain nombre de territoires,
Plus.
Alors dites-moi, qu'est-ce qu'on en a retiré?
On a libéré, voilà, par exemple, je donne un exemple, ouais. On a libéré énormément de prisonniers contre deux cercueils.
Oui, alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien ou c'est pas bien?
Moi, je vais vous dire que c'est bien parce qu'on a récupéré les morts.
Bon, alors, donc c'est bien, donc c'est
donc,
ça.
Pourquoi Abraham ne pouvait pas donner cet agneau? Je ne comprends pas.
C'est pas ça. Non. Et chez Abraham, c'est normal qu'il agisse comme ça. Le problème, c'est d'essayer de comprendre la colère de HaKadosh Baruch Hu. Mais ça, qu'est-ce que nous sommes? Qui nous sommes-nous pour comprendre cette colère? La seule chose qu'on peut savoir, nous, c'est que c'était pas la bonne chose à faire. Point. C'est tout. Vous comprenez? C'est cela. Abraham, je le comprends parfaitement. Parfaitement. Il a fait ce qu'il fallait faire étant donné la dimension d'homme dans laquelle il vivait. C'est normal, c'est tout à fait normal. Hein. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi HaKadosh Baruch Hu nous dit cela, hein, n'est-ce pas? Mais ça, qui c'est qui peut? Qui c'est qui peut savoir qu'un jour on comprendra HaKadosh Baruch Hu?
Est-ce que peut-être, alors, hein? Il n'a pas commencé, mais est-ce qu'il n'a pas aussi, je vais plus loin.
Oui.
Pas possible, Dieu est tellement bon. Je trouve que c'est pas possible qu'il ait agi comme ça. Ou est-ce que les écrits, est-ce que dans les écrits, il y a quelque chose qui a été mal dit, mal fait, enfin je sais pas.
Vous savez, il faut prendre en compte, n'est-ce pas, que le Midrash n'est pas quelque chose écrit par des hommes. C'est quelque chose écrit par des hommes avec Ruach à Kodesh. Oui. Ce ne sont pas des commentateurs. Les Havdil, Ben Kodesh Lechol. Ce qui est écrit dans le Midrash a une valeur de Kodesh aussi importante que tout ce que vous pouvez. Bon, c'est là le problème.
On va mettre une question à la fin, si ça vous dérange. Oui,
oui,
mais ça. Il y a encore beaucoup de choses.
Oui, oui. Mais ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas. Si ça doit pouvoir éclairer, ça peut se faire. Donc. Rashbam dit, à cause de cela, après que HaKadosh Baruch Hu a vu que Abraham avait donné qu'il avait signé ce contrat, Vehara apo shel HaKadosh Baruch Hu, et que Dieu s'est mis en colère, Et pourquoi Dieu s'est mis en colère? Vous voulez savoir?
C'est ça la question.
C'est écrit. Pourquoi? Chez Haré Eretz Pelishtim Bichlal Gevol Israël. Eretz Pelishtim Bichlal Gevol Israël. Donc, c'est-à-dire quoi? Alors, je t'ai promis une terre, et toi, tu te permets de la monnayer un peu comme tu l'entends. De choses l'une, alors, ou c'est lui ou c'est moi. C'est, d'une certaine manière, il y aurait ici comme une espèce de perte de confiance de la part d'Abraham, qui me pardonne, parce qu'Abraham, c'est, on est des microbes à côté de lui. Mais je veux dire que, à côté de ce qu'Akadosh Baruch Hu attendait de lui, il semblerait que il n'avait pas à faire cela. Alors, qu'est-ce qu'il y a à la suite? Veha Elohim nissa et Abraham. Il va y avoir une épreuve. Quelle est l'épreuve d'Abraham? Vous imaginez, que pour Ashba, vraiment, il dépasse la mesure. Je vais expliquer, après je lirai dans les textes. Rashbam dit, vous savez pour quelle raison Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils Isaac? Parce que Abraham a signé un pacte d'alliance. Et que ce pacte d'alliance incluait son fils et son petit-fils. Donc, ça veut dire que Yitzhak, lui-même, était inclus. Eh bien maintenant, va me le sacrifier à Yitzhak. Et on va voir qu'est-ce que va devenir ton accord avec Abraham, avec Abimelech. Vous comprenez? Lisons ça dans les textes pour ne pas que vous pensiez.
D'ailleurs, il lui dit d'ailleurs, c'est maintenant que tu crains Dieu.
Ben oui. Vea Elohim nisait Abraham. Vous y êtes? Là où c'est souligné. Kintaro vetiaro. C'est donc deux verbes très forts. Kintaro, Dieu a, je sais pas comment traduire en français, Kintaro, Vetiaro, il l'a poussé jusque dans ses derniers retranchements. Kedirtiv, Hadissa, Davar, Elecha, etc. Keloma, revenez à ce qui est seulement souligné. Nitgaïta, Dieu dit à Abraham, Nitgaïta, Beben, Shenitatira, tu es orgueilleux, tu es fier du fils que je t'ai donné, Nitgaïta, Ge'e, n'est-ce pas? Beben, par le fils que je t'ai donné, jusqu'à l'ichrod berit benechem ou ben benehem, jusqu'à aller à sacrifier, à faire un pacte d'alliance entre ses enfants et tes enfants, eh bien maintenant, ve'ata, lech ve'a alehu le'ola. Oui? Va l'offrir en sacrifice. Veir'e ma'ho'ila kritut berit shelecha, et on verra bien à quoi ça va servir ton alliance. Et comme Rashbam a peur qu'on ne le suspecte d'avoir inventé ça, qu'est-ce qu'il ajoute Rashbam? Ve'chen matzati aharechen Bemidrash shel Shemuel Yudbet Aleph. Et c'est ce que j'ai trouvé écrit dans le Midrash de Shemuel. Et c'est normal. C'est tellement énorme ce qu'il a dit qu'on pourrait dire d'où est-ce qu'il a inventé ça. Eh bien, il nous donne la référence. Et la référence, c'est ce que je vous ai donné ici. Revenons maintenant en arrière. Et on va voir Yitzhak. Alors, on a l'impression que ce passage est une répétition, mais ne faites jamais l'erreur de ne pas aller vérifier. Et vous verrez que ce n'est pas une répétition. Et qu'il y a des différences entre le texte avec Abraham et le texte avec Yitzhak. Le début est le même. Va'abimelech halach elav migerar va'chuzat mereyahu fichol zareb va'odo. Et puis, va'yomer alehem Yitzhak. Madoua batem elay ve'atem senetem oti. C'est déjà différent. Yitzhak sait parler aux Philistins. Abraham ne sait pas parler aux Philistins. Abraham a dit immédiatement, Anoche ishabea. Mais Yitzhak commence par leur dire, en criant. Madoua batemelai. Il faut être très fort. Madoua batemelai. Qu'est-ce que vous voulez faire chez moi? Yitzhak, c'est celui qui se sent chez lui. Vous savez ce qui différencie Abraham, Yitzhak de Yaakov et Yaakov, l'un de l'autre? C'est qu'Abraham, c'est le juif qui n'est pas né en Israël et qui vient habiter Israël. Yaakov, c'est celui qui est né en Israël mais qui n'habite pas Israël. Et Yitzhak, c'est celui qui est né en Israël et qui est resté en Israël. Et ces trois types de juifs différents installent toute notre problématique. Une chose est, Abraham, il vient là-bas de Ur Kasdim, il est reçu, on lui dit, bon, il est bien content. Yaakov a des problèmes avec Esav. Il est né en Israël, mais il est obligé de se sauver. Yitzhak est né, et c'est exactement ce qui différencie aujourd'hui nous et vous, moi et vous, hein, de tous ceux qui sont les restes d'Israël. Nous sommes, nous, dans la galoute. Nous sommes, nous sommes Yaakov. Hein? Nous sommes... Pardon? Même sans être né en Israël.
Quatrième cas.
Oui, absolument. Mais par contre, celui qui est né en Israël et celui qui vit en Israël a une toute autre vision des choses que nous. Nous avons une vision très galoutique de notre relation avec les nations, de notre relation avec l'autre. On est un petit peu, Ibn Ezra a expliqué cela vient de ce que nous avons toujours donné notre dos à recevoir des coups, on baisse la tête et on laisse. Mais Yitzhak, c'est pas pareil. Yitzhak, lorsque Pichol Sarsivao vient, comment il les reçoit? Qu'est-ce que vous voulez faire chez moi? Madoua batemelai. Ve atem senetemoti. D'autant plus que je sais que vous ne m'aimez pas. Donc vous êtes des hypocrites. Voilà comment il les reçoit, Yitzhak. Alors, quelle est la réponse? Vayomeru, ils lui dirent, Ra'o ra'inu ki haya Hashem aimach. Voilà. Nous avons vu que Dieu est avec toi. Avec Abraham, c'est Elohim. Ici, c'est Hachem. Hachem Aymar. Le Dieu d'amour est avec toi. C'est-à-dire que finalement, on se rend compte qu'il y a une force maintenant particulière que tu as. Toi, Yitzhak. Im ta'ase imanura'a, etc. Et finalement, ven neshalara, ata beruch Hashem. Ata beruch Hashem. Tu es le béni de Dieu, voilà pourquoi on vient te voir. Aujourd'hui, on dirait, on vient te voir parce que tu es la plus grande armée du Moyen-Orient. On pourrait, d'une certaine manière, dire des choses comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, on se rend compte qu'il ne leur offre rien du tout. Voilà, il a déjà gagné 7 brebis. Il n'y a pas de 7 brebis, il n'offre pas, il n'y a pas de raison. Il leur fait un michté. Le michté, c'est normal. C'est simplement parce que on va signer. Va yochlo, va yishtu, va yashkim ou va boker, et de très bon matin, va yishavo yishlehi, va yishallehem Yitzhak. Regardez comment c'est écrit. Va yishallehem. Ça veut dire va yishallehem. Allez, ciao, dehors. Je vais pas vous voir. Va yishallehem. Ça n'a rien à voir avec les shlouchim. Va yelechou, va yelechou, meito beshalom. Etc., etc. Bien. Le Midrash, madame, ne dit rien sur Yitzhak. Ce serait comme si Yitzhak était au courant que Kadosh Baruch Hu était en colère contre Abraham. Mais, il ne faut pas oublier quelque chose. C'est que Abraham et Yitzhak ont un gros problème. Ils n'ont pas qu'un seul enfant. Ils en ont un autre. Et cela, d'une certaine manière, réduit leur marge de... Yitzhak aussi va avoir un problème avec Esav. Donc, tous les deux, aussi bien Abraham avec Ishmaël que Yitzhak avec Esav, vont avoir obligation d'avoir des relations avec les nations. Sur le plan cosmique, les nations ici, ce sont ces deux. Et c'est la raison pour laquelle Yitzhak accepte. Mais il accepte à peine après avoir, comme on a vu, il n'a pas fait à la manière ostensible d'Abraham. Il le fait parce qu'il veut. Et puis ensuite parce que Abraham et Yitzhak, ce sont deux types d'êtres hommes de la même manière. Regardez comment. Ve'elle toldot Yitzhak ben Abraham, Abraham au lieu de Yitzhak. Ça veut dire. Voici la descendance d'Yitzhak, fils d'Abraham. Yitzhak, c'est le fils d'Abraham. Abraham a donné son nom à Yitzhak. Que finalement, il y a quelque chose qui les relie tous les deux, Abraham et Yitzhak. C'est cette relation avec l'autre. Alors maintenant, on va se poser la question. Comment s'appelle le premier accord? Il s'appelle Be'er Sheva. Comment s'appelle le deuxième accord? Il s'appelle aussi Be'er Sheva. Puisque c'est toujours dans cet endroit là-bas. Sauf que le mot Be'er Sheva, une fois est écrit Be'er Sheva, une fois est écrit Be'er Shava. Et c'est pas pareil. Parce que Sheva, c'est sept, et Shava, c'est Shvoa. Serment. Donc c'est... Maintenant, on va se poser la question, comment ça va se passer avec Jacob? Est-ce que vous avez vu dans la Torah que Jacob, il a signé des accords? Non. Abraham et Isaac. Mais on veut quand même savoir comment a réagi Yaakov. Comment réagirait-il Yaakov? Comment? Oui, mais il va faire quelque chose d'intelligent. Il ne va pas augmenter la sauce. Vous comprenez? Bon, maintenant, ce qui est fait, mais au moins qu'on s'arrête à 7. Parce que si maintenant je resigne avec eux, eh bien, je repousse encore d'une génération supplémentaire. Qu'est-ce qui est écrit? Tout de suite, à la fin de cette paracha, au début de la paracha, il est écrit « Vayetse Yaakov mi Be'er Sheva ». Vous vous souvenez de cette paracha? Tout le monde la connaît par cœur. « Vayetse Yaakov mi Be'er Sheva ». Alors, essayons de comprendre maintenant ce « Vayetse Yaakov mi Be'er Sheva » sous le plan du symbole, de ce que ça veut dire. « Vayetse Yaakov ». Il est sorti, parce qu'on savait qu'il était à Be'er Sheva. La paracha d'avant nous dit qu'il était à Be'er Sheva. Pour quelle raison est-il venu, le texte nous rappelait Vayetse Yaakov. Et le Midrash comprend Be'er Sheva, le puits, Be'er, c'est le puits du serment. C'est un puits sans fond. On s'enfonce là-bas, on meurt. Yaakov, Vayetse Yaakov, mi Be'er Sheva. Est-ce que vous avez compris? Et ça, ce n'est pas une explication à moi. C'est l'explication du Midrash. Regardez ce que dit. Vayetse Yaakov mi Be'er Sheva. Yatsa Yaakov mi Be'era shel Shvoa. Yatsa Yaakov mi Be'era shel Shvoa. Vayelech Harana. C'est ça la suite du verset. Qu'est-ce que ça veut dire Vayelech Harana? Il est parti à? Et que c'est Harana. Bravo. Vayelech Harana. Ça veut dire, il savait que ça allait lui coûter très cher. Il préfère encore avoir affaire à l'ONU et à tous ses sbires, mais ne pas avoir affaire ce genre de choses. Vayetse Yaakov Be'er Sheva. Et donc, la troisième alliance n'aura pas eu lieu. Or, et je vais terminer là-dessus, vous me direz si vous avez ajouté quelque chose. Or, moi maintenant, je suis qui, moi? Moi, nous. Nous sommes qui? Nous sommes Israël. Nous sommes Israël. Parce que lorsque le livre de Bereshit va s'arrêter, va commencer le livre de Shemot. Entre le livre de Bereshit et le livre de Shemot, on se pose la question, pourquoi Dafka on a séparé à la fin de la parasha de Vayechi? Pour commencer, Ve'ele Shemot ben Israël abay Mitzrayim ha'atiakot. Pourquoi? Quelle est la raison? D'autant plus que le livre de Shemot commence par un vavahibur. Commence par un. Vous connaissez-vous des livres qui commencent par et? Parce qu'il y a une relation, n'est-ce pas? La relation, c'est que le livre de Bereshit, c'est le livre des Abbot. Et le livre de Shemot, c'est le livre des Banim. La formule Bnei Israël ne se retrouve presque pas dans le livre de Bereshit, sinon deux fois. Mais à partir du livre de Shemot, Ve'ele Shemot Bnei Israël, Daber el Bnei Israël, Ve'omer Hashem el Bnei Israël. À partir de Shemot, nous sommes Israël. Pourquoi? Parce que c'est la vie de Yaakov. Nous ne sommes pas les enfants de Abraham. Nous ne sommes pas les enfants de Yitzhak. Nous sommes les enfants de Yaakov. Or Yaakov est le seul des patriarches qui a eu droit au titre de Israël. Abraham n'a pas eu droit au titre de Israël. Il faut vous poser cette question-là. Yitzhak n'a pas eu droit au titre d'Israël. C'est Dafka Yaakov et uniquement Yaakov. Donc, moi, faisant partie de Bnei Israël, comprenez bien ce que c'est Bnei Israël. Je ne suis pas Israël. Vous n'êtes pas Israël. Nous sommes Bnei Israël. Bnei Israël. À aucun moment il n'est écrit dans la Torah Daber El Israël. Il n'existe pas. En Israël, il n'y en a eu qu'un seul. C'était Yaakov. Ça va. Mais Bnei Israël, ça veut dire nous sommes en devenir de devenir Israël. Nous sommes en construction. Atikra Banaïr est là. Bonaïr. Nous sommes en construction d'Israël. Donc, si je dois prendre l'exemple d'un de ces patriarches-là, qui je vais prendre? Abraham, Yitzhak ou Yaakov? Bien sûr que je prendrai Yaakov. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Va yetze Yaakov, Miber Shabbat. Voilà, je m'arrête.
Il s'est sauvé des accords, vous voulez dire?
Je ne suis pas sauvé. Il a choisi de ne pas le faire. Il n'est pas sauvé.
Alors, qu'est-ce qu'on doit faire?
Il est sorti. Ah ben voilà. C'est là le problème. Encore une fois, j'ai commencé par dire, moi je ne suis pas venu régler un problème d'ordre politique, je ne suis pas politicien. Moi je suis quelqu'un qui dit, il y a une Torah, dans cette Torah tout a été dit. Alors maintenant on va voir qu'est-ce que la Torah me dit sur ce plan-là. Voilà ce que la Torah me dit sur ce plan-là.
C'est mieux d'avoir la colère de l'ennemi.
Bien entendu. Bayelech Harana, bien entendu. Au Bagoyim, Loït Rachab, c'est écrit ça. C'est même Bilam qui l'a dit, Israël. Là, on n'a pas à s'occuper de ce que disent les gens. De toutes les manières, on ne nous aime pas. De toutes les manières, c'est pas. Il y aura toujours cette haine. Donc, ne pas accorder d'importance à cela. Ou pas goyim loit hashav dans le sens loit hashav de l'hébreu moderne, de l'hébreu israélien. Pas, il ne compte pas.
Deux questions.
Oui.
David Amalère nous a sorti de ce pacte.
Oui. Ah oui.
À l'époque du Sénédrin.
Ah oui. Parti. Non, pas à l'époque du Sénédrin. Ça suffit.
À l'époque du Sénédrin. Il nous a sorti du pacte en disant que les Yéhoussim qui étaient là, c'était des pirates.
Oui.
Puisque leur intention, puisqu'ils étaient au centre d'Israël, c'était pas de pérenniser leur présence dans un endroit tranquille, mais d'occuper la capitale. Donc ouais. C'était un acte de guerre à la limite.
En réalité, David, il ne faut pas que vous oubliez que David a quand même été obligé d'acheter content.
Oui. En plus.
Oui. D'ailleurs, les trois choses que nous avons achetées dans la Torah, c'est-à-dire pour se dire, au moins cela, on ne va pas nous les... Eh bien, c'est cela qu'on nous conteste. Hébron, qui a été acheté par Abraham, Shrem, qui a été acheté par Yaakov, et David, qui a acheté l'endroit où se trouve le Beth Amikdash. Mais effectivement, dès que David est arrivé, après cela, nous sommes... Eh bien, il a mis dehors les Jébuséens et il a unifié la ville de Yerushalayim.
Bon, j'ai une question, moi, quand même. Je ne conteste pas tout ce que vous avez dit, hein. Ça a l'air clair. Mais si je reprends le village, donc, où on voit que notre rose, il s'est mis en colère après Abraham, ok. Il prie noir sur blanc, pour rien dire. Mais comme Yitzhak, il recycle Yitzhak.
Oui.
Et Hachem, il ne se fâche pas. Hachem, il ne se fâche pas.
Non. Il n'a pas besoin de se fâcher, ce n'est pas. Yitzhak est celui, vous l'avez lu dans la paracha, est celui qui a recreusé les puits qu'on avait C'est que ça veut dire qu'il a recreusé le puits. Et Yitzhak ne fait rien d'autre que essayer de rétablir ce qu'a fait Abraham Avinu. Donc il rentre sur le plan du Midrash à l'intérieur de ce que Dieu a dit à Abraham, de manière tout à fait logique, naturelle. Mais encore une fois, pour ce problème-là, parce que le problème que nous avons, c'est le problème des restes d'Israël finalement. C'est celui-là ce problème. Bon, alors. Avec Abraham, nous avons le problème d'Ishmaël. Et avec ce qui se passe aujourd'hui avec le pape qui remet en place des intégristes qui vont continuer à faire la messe en latin et qui vont le vendredi faire une prière pour nous soi-disant et vont demander à leur Dieu de faire que les Juifs perfident. Tout cela, c'est pas rien. C'est tout le problème avec Esav. Donc, c'est la raison pour laquelle, concernant Eretz Israël, il y a comme une espèce de disqualification, que je mets entre guillemets, qui vient de Abraham et de Yitzhak. Ils ont comme les mains liées, l'un par Ishmaël et l'autre par Esav. Celui qui peut envoyer tout le monde bouler, c'est Yaakov. C'est ce qu'il fait.
Oui, on dit que le problème avec Esav, c'est plus un problème de spirituel, alors qu'avec Ishmael, c'est plus un problème de territoire.
Mais je ne sais pas. Je préfère encore avoir un problème de territoire qu'avec un problème du virus Israël. C'est pas vous Israël, c'est moi Israël. Ça va pas. Je préfère encore avoir affaire à Ishmael. D'ailleurs, je m'entendrai mieux avec Ishmael qu'avec Esav. Et c'est ce qui se passe en réalité.
Pour citer Rav Zichroni Livracha Ashkenazi, Manitou, il disait que les séfaradim étaient plus orientés vers la guerre contre Ishmael et les Ashkenazim, la guerre contre Esav. Est-ce qu'on peut voir que les Bnei Avraham, c'est pour raccourci, là, c'est nous, les séfaradim. Les Bnei Yitzhak, c'est des Ashkenazim, mais alors qui sont les Bnei Yaakov?
C'est une excellente question. Alors si vous avez cité Manitou, vous avez eu raison de le citer, et Manitou disait cela à propos de quelque chose de très simple. Il disait, moi j'étais en Algérie juif arabe, moi je suis du Maroc, mais lui, il est Ashkenazi. Et puis quand je suis arrivé en France, j'étais israélite français. Et puis ma concierge me traitait de juif. Maintenant, je suis devenu un hébreu. Évry. Voilà le problème. Savoir que lorsque on a quitté l'exil et qu'on revient en Eretz Israël, alors on retrouve son identité hébraïque. Parce que c'est encore quelque chose de faux de penser que le mot ivri veut dire et ne parle que de Abraham qui vient de Me'ever Hayarden. C'est pas tout ça. La Torah parle de Eretz Ha'ivrim. La Torah parle de Eretz. Ça veut dire que il y avait déjà connaissance que cette terre-là appartenait à Ivrim. Et qui c'était ces Ivrim? Qui c'était ces Ivrim? Eretz Ha'ivrim, c'est qui? Eh bien, c'est avant Abraham Avinu. Hever, c'est le fils de Shem. Dans la lignée Shemite, dans la lignée de Noah, lorsque Ham et Yafet vont sortir, il va y avoir Shem et Hever. Rashi nous apprendra que Abraham Avinu, où est-ce qu'il a pris tout cela, la connaissance de Hashem et tout? Où est-ce qu'il a pris comme ça? Bon, rendons leur vérité à ce que d'abord à Sarah. Oui. C'est Sarah. C'est pas parce qu'il y a, faut dire la vérité aux dames qui sont là. C'est Abraham est devenu Abraham grâce à Sarah. Ça, vous le savez. Donc il était le Midrash dit que Abraham haya tafel les Sarah beruach hanvua. Il était tafel, c'est-à-dire secondaire par rapport. Mais ensuite, l'enseignement qu'il a eu de Shema Hefer. mais notre identité de Ivri ne date pas de Abraham, elle date de Ever. Elle ne date pas de quelqu'un qui est venu d'Irak. Elle date de quelqu'un qui a poursuivi après Noir. Donc, Manitou dit les choses clairement. Nous étions au départ des Hébreux. L'exil a fait de nous des Juifs. C'est d'ailleurs comme ça que ça... C'est comme ça que c'est... Ish Yehudi haya Beshushan Abira Ushmo Mordechai. Pourquoi on l'appelle Yehudi? Parce qu'il est Beshushan Abira. Il est Yehudi, Juif. C'est la traduction du mot juif. Alors qu'on aurait dû dire qu'il était, je sais pas moi, d'abord il n'est pas Yehudi, il est Binyaminite. N'est-ce pas? Donc, si on lui a accolé cet adjectif de Yehudi, c'est que le mot Yehudi ici veut dire juif. Manitou dit, nous étions des Hébreux, l'exil a fait de nous des Juifs, maintenant que l'exil est terminé, il faut que nous retrouvions notre hébraïsme. Et il dit dans un de ses livres à ses enfants, j'étais juif arabe, puis israélite français, puis maintenant je suis hébreu. Il faut retrouver cet hébraïsme.
Et vous aviez promis le Zohar
en fait, Ah oui, non, je vais vous dire, je ne savais plus qu'est-ce que vous aviez décidé. Si c'était ça ou si c'était ça. Alors j'ai apporté ça, mais écoutez, ça fait quand même beaucoup. Hein?
Vous reviendrez alors.
Non, c'est ça, oui. Sinon, si je vous dis tout maintenant, vous ne m'inviterez plus. Non, mais c'est vrai. Oui. Il y a monsieur Tony.
Vous savez que tous dépend de la volonté de Dieu.
Oui.
D'accord. Ismaël. Il a fait naître.
Oui.
Esav, il l'a fait naître.
Aussi.
C'est pas la faute d'Israël.
Non.
Alors voilà, pourquoi ce problème maintenant? Nous on paye ses naissances. Alors est-ce que c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu?
Oui. Oui.
On paye ses...
Comment?
Que nous ayons tous ces problèmes.
Bien sûr.
Ismaël qui veut nous remplacer.
Oui.
En prenant notre Torah et notre terre.
Alors, j'ose pas parler ici en présence de ces éminents représentants du Chabad, d'un enseignement de Maïmonide qui est très clair. Rambam dit les choses de... Ça fait partie, Rambam le dit de manière très claire,
oui.
Ça fait partie de la volonté de HaKadosh Baruch Hu, qu'il y ait Ishmael et qu'il y ait un milliard, oui. Et qu'est-ce que dit Rambam? Parce que tout cela nous rapproche de l'époque du Mashiach. C'est tout. Bien entendu. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait, il le fait en connaissance de cause. Bien sûr, nous avons besoin. Manitou, puisqu'on parlait de Manitou, Manitou disait qu'est-ce que c'est que le judaïsme, qui ne représente rien du tout dans l'économie mondiale. Qu'est-ce qu'on représente? C'est rien du tout. Même pas un petit coin de... Et pourtant, on est au centre du monde. Au centre du monde. Bon, vous avez entendu parler des Chinois, là, ces derniers temps, dans les journaux? On n'a pas parlé des Chinois. On parle d'Israël, on parle mais pas des Chinois, on parle pas des PK, du Pakistan, on parle de personne. On parle pas des centaines de milliers de morts qu'il y a dans le Darfour. On parle... Mais pourquoi? Parce que nous sommes au cœur du monde. Et alors Manitou dit, voilà, et même Akadosh Baruch Hu dit, vous, je ne vous ai pas choisi parce que vous êtes nombreux. Justement, je vous dirais parce que vous n'êtes pas nombreux. Parce que dans un laboratoire, il y a des chercheurs. Le peuple juif, pour l'ensemble de l'humanité, est un peuple de chercheurs. Le peuple juif cherche le bonheur, cherche comment arriver à une meilleure morale, comment arriver à une meilleure justice, comment arriver à une meilleure... Il ne faut pas qu'on soit très nombreux pour ça. Et puis, dès qu'on a découvert quelque chose, on la répand. Mais avec qui il faut que je puisse la donner à quelqu'un d'autre. Donc il faut qu'il y ait... C'est cela. C'est ce que Dieu a fait. Merci beaucoup.
Bien, rendez-vous est pris. Hein.
On attend la couche Zohar.
Il nous faut la couche Zohar, exactement. Et on remercie d'avoir pris un peu de temps pour s'exposer vraiment très clair. J'espère